Chapitre 19. Quand il eut fini de se lamenter sur sa tenue en lambeaux, Nathan insista pour fouiller les débris à la recherche de son épée et d'autres objets susceptibles de servir à des survivants. Après une série de mésaventures, il avait peu d'espoir de retrouver son arme. Pourtant, il la dénicha entre une caisse fracassée et un tonneau qui avait contenu de la teinture. Il dégagea l'arme et la brandit.
« Je vais me sentir mieux. Banane, à nous deux, nous défendrons la magicienne contre n'importe qui. »
« Les mouettes et les crabes en tremblent sûrement de peur, » railla Nietzsche. « Avant de nous mettre en chemin, il faut ramasser tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Qui sait combien de temps il nous faudra pour retourner dans l'Empire d'Aran ?» Avanie ou pas, la magicienne n'oubliait pas sa mission, car il en allait de l'avenir de Richard et du triomphe de sa vision du monde. Parmi les cadavres, ils trouvèrent une outre d'eau intacte qui leur permit de se désaltérer et une caisse de viande salée. Désespéré d'avoir perdu sa garde-robe, Nathan découvrit dans le coffre d'un marin une chemise qui irait à Bannon, un peigne en écailles de tortue et une liasse de lettres détrempées. Les rares mots lisibles indiquaient qu'il s'agissait du courrier d'une amante adorée qui ne recevrait plus jamais de réponse à ses missives.
« On prend exclusivement ce qui peut servir, » dit Nietzsche.
Dans le coffre, elle préleva un couteau de guerre dont elle accrocha le fourreau à sa ceinture. Après son empoisonnement, elle se sentait toujours un peu mal, mais cette épreuve lui avait enseigné une leçon. Au cas où son don la trahirait, une magicienne ne devait jamais être désarmée. Avec des morceaux de voile, les trois naufragés fabriquèrent des sacs pour transporter leur trésor. Quelques minutes après que le soleil eut atteint son zénith, le trio se mit en marche. Devant la falaise qui courait tout le long de la plage, des buttes à demi couvertes de sable pouvaient servir de point d'observation. Après en avoir gravi une, ses compagnons dans son sillage, Nietzsche laissa son regard errer sur l'océan. Pas de voile en vue, et impossible de distinguer les récifs où le randonneur avait coulé.
« Nous avons dû dériver très loin vers le sud, » supposa la magicienne.
Selon les cartes de feu, le capitaine Ellie, ils étaient peut-être sur la côte fantôme. Dans un paysage désert, une structure artificielle se voyait de très loin. Dès qu'il l'eut repéré, Bannon alerta ses compagnons. Sur un promontoire, à 1000 pas de leur position, se dressait une petite pyramide de pierre à l'évidence érigée par des gens et conçue pour être vue de loin. Nathan sonda le terrain et souffla.
« D'ici, difficile d'estimer la taille de cette chose.
Allons voir, » dit Nietzsche. « Si c'est un point de repère, il nous donnera la direction de la ville ou de l'avant-poste militaire le plus proche. »
Vérification faite, le promontoire et son monticule de pierre étaient plus proches qu'on aurait pu le croire. Quand ils l'atteignirent, Bannon ne cacha pas sa déception.
« Un vulgaire tas de pierres ?»«
Bien vu, » approuva Nathan. « Mais il a quand même une fonction, ton tas de pierres. »
En forme de pyramide, la structure était à peine plus haute que le sorcier. De mauvaises herbes envahissaient sa base et du lichen orange et vert recouvrait sa pointe. Dans les environs, aucun autre rocher ne ressemblait à celui-là.
« Quelqu'un s'est donné bien du mal pour l'ériger, » dit Nietzsche. « Et visiblement, il est là depuis longtemps. »
Nathan se tourna vers l'océan.
« C'est peut-être une balise pour les marins, ou une sorte de phare, mais ça ne nous servira à rien. Ici, il n'y a pas assez de végétation pour allumer un grand feu. »
« Une boule de feu de sorcier aurait le même effet, »
dit Nietzsche avec un petit sourire. En quête d'indices, Bannon fit le tour de la pyramide miniature. S'agenouillant, il balaya de la main le lichen et la mousse du socle.
« Il y a des mots gravés ? On dirait un message ?»
Nietzsche et Nathan rejoignirent le jeune homme. « Oui, c'était bien un message. »«
Vers Koladère. »
« On dirait que c'est l'indice que nous cherchions !»
fit Nathan, l'air ravi. Nietzsche se pétrifia lorsqu'elle vit la suite du message.
« À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier, et la magicienne devra sauver le monde. »
Nathan ne cacha pas sa surprise.
« Redevenir entier ? Tu crois que c'est lié à mon Han ? L'utilisation de la magie... « Rouge savait. Oui, elle savait. »
Nietzsche sentit une boule se former dans sa gorge.
Je déteste le reconnaître, mais ça ajoute du crédit au propos de la voyante.
Qu'est-ce que c'est ?
Demanda Bannon, largué.
Une prophétie ? Les prophéties n'existent plus,
rappela Nietzsche, sans grande conviction.
Si cette prédiction très vieille s'était gagnée une place dans le monde avant que toutes les règles changent.
Je nous croyais victimes d'un naufrage,
s'étonna Nathan.
En fait, ce désastre nous a conduits exactement là où nous devions aller.
J'aime mieux choisir seule ma direction,
maugréa Nietzsche. Mais comment aurait-elle pu nier l'évidence? Pour aider à sauver le monde ou épauler Richard Rall, elle n'avait pas besoin qu'une prophétie lui tienne la main. Et si elle devait aller à Colader, elle irait. Même chose pour Nathan. Avec une moue pensive, le sorcier relut le message.
Quand une prophétie est limpide, il faut être fou pour la négliger. Et en règle générale, si on la dédaigne, elle se réalise, mais dans une pire version.
Nietzsche estima qu'ils avaient assez palabré.
En route pour Colader, où que ce soit,
lança-t-elle. Alors qu'ils s'éloignaient de la pyramide, les trois voyageurs entendirent un grand bruit. Se retournant, ils constatèrent que l'étrange structure venait de s'écrouler, juste après avoir rempli sa mission. Nietzsche et ses deux compagnons redescendirent sur la plage. Très vite, ils tombèrent sur le squelette d'un monstre. De la taille d'un chariot, le crâne triangulaire était doté de crocs longs comme le bras d'un homme. La colonne vertébrale blanchie par le soleil faisait au moins la longueur de 10 chevaux et les côtes, incroyablement nombreuses, formaient une sorte de tunnel jusqu'à ce qui avait dû être la queue de la créature.
« Ce n'est pas un dragon, »
dit Nathan.
« Cette espèce est en voie d'extinction, »
approuva Nietzsche.
« Un serpent de mer, » annonça Bannon. « Les bras doctement croisés, plutôt petits. » Sur les plages de Chéria, on en voyait souvent à la saison des amours, au moment où pousse le varech.
Nietzsche supposa que la créature avait été déposée sur la plage par la marée. Agonisante ou morte, elle avait dû être dévorée par des charognards. Sur ses os, il ne restait plus que quelques lambeaux de chair.
« Si c'est un petit serpent de mer, »
dit Nathan,
« je me félicite que le randonneur n'en ait pas rencontré un. »
Les trois voyageurs longèrent la plage, jusqu'au moment de la marée montante en fin d'après-midi. Après des heures et des heures de marche, ils n'avaient aperçu aucune trace d'une présence humaine, même pas un départ de piste artificielle. Cet endroit semblait désert, sauvage et inexploré. Bannon accéléra soudain le pas en direction d'une falaise qui leur barrait le chemin.
« Dépêchez-vous ! Avec la marée montante, nous risquons d'être coincés. Je n'ai aucune envie de devoir escalader cette falaise !»
Quand ils atteignirent leur objectif, les naufragés avaient déjà de l'eau jusqu'aux chevilles.
« Par ici !»
dit Bannon.
« Attention à ne pas glisser sur les algues !»
Quand ils eurent contourné la falaise pour déboucher dans une crique, Bannon se pétrifia, contraint d'écarter les bras pour ne pas perdre l'équilibre sur son rocher. Nietzsche vit tout de suite ce qui le perturbait. Ici, un autre navire était venu se fracasser contre la roche. Il n'en restait pas grand-chose, quelques lattes de bois, une partie de la quille. Avec le passage du temps et des intempéries, tout ça avait pourri.
« Intéressant, »
fit Nathan, le souffle un peu court après la marche forcée.
« C'est quel genre de navire ?»
La proue arrondie était ornée d'une tête de serpent. De serpent de mer, même, s'avisa Nietzsche en repensant au squelette. Quant aux lattes de la coque, elles se chevauchaient au lieu d'être jointoyées au plus près, comme celles du randonneur, à l'évidence plus moderne et plus sophistiquée. Nietzsche se tourna vers Bannon, blême, comme s'il venait de voir un fantôme.
« Ce bateau te dit quelque chose ?»
Le jeune homme secoua la tête bien trop vite.
« Pourquoi trembles-tu, fiston ?»
insista Nathan.
« J'ai froid et je suis fatigué. La nuit ne va pas tarder et nous devons trouver un endroit où camper. »
Nietzsche regarda autour d'elle et prit instantanément sa décision.
« Ici, ça ira très bien. » Cette crique est abritée et, comme le montre la ligne de démarcation sur les rochers, nous serons au-dessus de la hauteur maximale de la marée. Un bon refuge.
Avec du bois de chauffe à portée de main,
renchérit Nathan.
Bannon ne parut pas convaincu. Si on continue, on trouvera peut-être un village.
Et peut-être pas,
fit Nietzsche.
Ici, nous serons mieux qu'en terrain découvert.
Il se dirigea vers l'épave.
J'entends déjà crépiter les flammes.
Sans perdre de temps, il commença à ramasser du bois.
« Le sable est très mou, »
dit Nietzsche en explorant une partie de la coque dévastée. En plus, on pourra faire un feu dans un cercle de pierre. Accablé, Bannon renonça à polémiquer.
Je vais nous chercher de quoi manger, dit-il. Dans les flaques d'eau, il doit y avoir des crabes, des coquillages, peut-être des moules.
Le jeune homme s'éloigna pendant que Nathan parachevait son feu, mais il dut laisser à Nietzsche le soin de l'allumer. Après avoir lissé le sable pour qu'il soit plus confortable, Nietzsche choisit une souche qui ferait un siège acceptable. Assis devant les flammes, Nathan ramena frileusement les genoux contre sa poitrine.
« Je ne me suis jamais senti si faible et si perdu, même si nous sommes en chemin pour Colladère. »«
Nous sommes passés par de dures épreuves, sorcier, et ce n'est pas terminé. »
Nietzsche attisa le feu avec un bâton.
« Je suis perdu parce que mon don m'a lâché alors que j'en avais le plus besoin. Je suis né avec, ne l'oublie pas. Et j'ai gaspillé tant de siècles dans ce maudit palais, contraint de recevoir des prophéties et de les rédiger de travers, histoire que tout le monde les interprète mal. »
Le vieil homme ricana.
« Si les sœurs de la lumière avaient de bonnes intentions, leur résultat laissait à désirer. »
Nathan se tortilla, mais il ne sembla pas trouver une meilleure position sur le sable.
« Elle me juge dangereux. Les prophéties étaient en moi, unies à ma chair et à mon sang. Quand Richard a renvoyé la machine à présage dans le royaume des morts, il a tué cette part de moi-même. »«
Il a fait ce qui s'imposait, sorcier. » »«
Je n'en doute pas et je ne m'en plains pas non plus. »
Nathan fouilla dans son sac improvisé pour en sortir le peigne en écaille de tortue, puis il entreprit de démêler sa tignasse blanche.
« Sans les prophéties, le monde est un endroit plus agréable. »
Il cessa de se peigner, leva une main, se concentra.
« Non, pas moyen. J'ai perdu mon don. Avant même la tempête et les Selka, il me faisait défaut. J'ai essayé, mais comment est-ce possible, magicienne ?»«
Tu crois que la magie nous abandonne, à l'instar des prophéties ?»« Désolé, mais je ne vois pas le rapport. Mon don est intact. »
Si on oublie l'épisode du poison. J'étais un prophète et un sorcier. Si le don de prédiction m'a quitté et qu'il ait été lié au reste de mon pouvoir. Sur une tapisserie, on ne peut pas retirer un fil sans en défaire d'autres. Si mon Han était neutralisé, en bannissant les prophéties, Richard a peut-être affecté d'autres zones de la magie.
Nathan tendit ses mains vers les flammes pour les réchauffer.
Et si je ne peux plus jamais créer une toile de lumière? Ou modeler l'air, ou invoquer le feu? Devrais-je me rabattre sur des tours de cartes? Que dois-je faire pour redevenir entier?
Sorcier, j'ignore la réponse à ta question.
Sorcier? Bientôt tu ne pourras peut-être plus m'appeler ainsi.
Interrompant ce dialogue, Bannon revint avec une brassée d'huîtres et de moules qu'il jeta à côté du feu.
Il y avait des crabes gros comme mon poing, mais je ne pouvais pas tout porter. « J'irai en ramasser plus tard. »
Avec un bâton, Nathan poussa les huîtres et les moules dans le feu. Les moules s'ouvrirent presque tout de suite et Bannon les récupéra avec un autre bâton.
« Elles cuisent très vite. »
Nathan et Nietzsche commencèrent à manger. Bannon s'y mit aussi et, quand sa pêche fut consommée, il prit un brandon et partit à l'aventure dans la nuit. Les crabes aussi se révélèrent délicieux. Le repas terminé, Bannon posa solide sur ses genoux et testa son tranchant du bout du pouce. Il semblait toujours aussi mal à l'aise. Nietzsche leva les yeux pour étudier le ciel et ses constellations modifiées.
« Demain, nous déciderons dans quelle direction aller. »
Sans s'intéresser à la conversation, Bannon s'amusait à jeter les coquilles vides sur une des lattes de l'épave qui leur servait d'abri. Nathan ouvrit la sacoche accrochée à sa ceinture et en sortit son livre de vie. Presque sec à présent. Avec une plume à réservoir d'encre achetée à Tanimura, il dessina la ligne de côte sur une page blanche.
« Je n'ai pas de matériel de cartographie, mais un œil d'aigle compense bien des lacunes. »
Il dessina le promontoire, la plage, le site où se dressait la pyramide et la crique dans laquelle il campait.
« Quand on ne sait pas où on commence, établir une carte précise n'est pas facile, mais je fais de mon mieux. C'est le travail d'un ambassadeur itinérant. » Richard voudra sûrement une carte quand nous reviendrons. »
Il travailla en silence, observa son œuvre et soupira d'agacement.
« Avec un sort de localisation, ce serait mieux. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi.
Au moins, dit Nietzsche, avec ce livre, tu ne risques pas d'être à court de parchemin vierge, la preuve qu'il n'est pas totalement inutile.
Frappé par une idée, Nathan releva la tête et regarda sa compagne.
La voyante n'a pas raconté n'importe quoi. Elle savait que nous devions venir ici, toi comme moi.
Pour sauver le monde et l'empire de Richard, tout ça deviendra limpide si nous trouvons quelqu'un à interroger.
Bannon regarda les deux pratiquants de la magie.
Si nous trouvons Colladère, Nathan redeviendra entier et Nietzsche sauvera le monde?
C'est ça, oui,
grogna Nathan.
En gros, sauf si c'est une vague prédiction qui peut vouloir tout dire et rien.
Les propos des voyantes n'ont jamais été fiables,
rappela Nietzsche.
Avons-nous le choix? Maintenant nous sommes ici, alors... Nous étions chargés d'explorer l'ancien monde, une quête qui paraissait un peu ridicule, mais les choses ont changé.
Donc, ce sera Colladère.
Nietzsche se leva et vint s'asseoir plus près du feu.
Dès que nous saurons comment y aller.